pourrait avoir une prédication un peu plus longue, parce que je vais m'auto-traduire, en tout cas au moins dans les grandes... Voilà, donc vous allez avoir la chose deux fois d'affilée. J'ai trouvé une Bible, j'ai des Bibles dans mon téléphone. Got the Bible in English in my telephone, okay, so I translate for you, right? Ok, voilà, bonjour à tous. Donc on va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 1er. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capernaum. Et là, il y avait un capitaine romain qui avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Et quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi, mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et si je dis à l'un va, il va. Et si je dis à l'autre viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, même pas en Israël. » Et les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et trouvèrent le serviteur en bonne santé. Well, I'm going to read for you in the Gospel of Luke, chapter 7. So I'm not going to read, you've got the... Okay, fine. On a là un récit de miracle comme beaucoup d'autres. Mais il y a une différence capitale, c'est que tous les autres qui ont été guéris, des aveugles, des sourds, etc., ils font appel à la puissance miraculeuse de Jésus. Mais ici, cet homme, en plus, comprend pourquoi Jésus a la puissance de guérir. So we have here it's a miracle story like many others. There are many people that were healed by Jesus and approached him to be healed. But here, this man is different because he understands why Jesus can heal, why he's got the power to heal. Et donc on rentre ici dans ce passage dans un univers qui est extrêmement différent d'une autre, parce qu'on apprend que la clé de la bénédiction, c'est-à-dire ici la bénédiction recherchée, c'est la guérison, eh bien c'est l'obéissance. On est dans un univers de verticalité, et qui est tellement contraire à notre culture, qui insiste tellement à notre droit de faire ce qu'on veut. So I was saying that we are here in this passage, we're in a world that is extremely different from ours, you know, especially here in France, you know, the Western world, because we learn here that the key for this healing, for this blessing, is obedience. This man understands what obedience is. And so we are here in a very vertical world, right? Which is very it's quite the contrary here in France, in the Western world, because our culture insists so much on the liberty we have and the right we claim to have to do what we want, without obeying, of course. Et donc j'aimerais qu'on étudie au travers de ce passage un peu l'importance de l'obéissance pour notre propre bonheur. And so this passage is important to understand the importance of obedience for our own happiness. Alors j'aimerais un peu décortiquer, comprendre un peu ce qui se passe dans ce passage. Vous avez donc, ça commence par le portrait de cet homme. Cet homme est un soldat, c'est un commandant. Et donc, c'est un bon travail, il est bien payé, il a une position enviable. Et c'est un métier où on ne fait pas de sentiments. Hein. Il représente, il appartient à une armée d'occupation. Les Romains faisaient du maintien de l'ordre et ils pouvaient avoir la main extrêmement lourde. So we have here at the beginning of the passage the portrait of this man. He's a soldier, he's a commander, which was at the time a very good job, rather quite well paid, and it was a job in which there was no place for feelings. The Roman army was an occupation army, and so they could be very, very heavy-handed in the way they dealt with the population. Et cet homme tranche par rapport aux autres soldats, aux gens de sa classe, on va dire, parce qu'on voit qu'il aime son esclave, ce qui est rare, d'habitude les serviteurs. Hein, bon. Et puis en plus, il aime le peuple juif. Il nous est dit au verset 5 qu'il aime ce peuple. Alors qu'il faut savoir que les juifs dans l'Empire romain avaient une mauvaise réputation. L'antisémitisme était déjà très très fort. Et on voit qu'il aime en acte, il a été généreux, il a donné de l'argent pour qu'ils puissent construire leur lieu de culte. So this man is a bit different from the other people of his kind. We see that he loves his servant, which is something quite strange in that world, right? And more surprising still, he likes the Jews. He likes the people around him, and at that time within the Roman Empire there was already a lot of anti-Semitism, and so the Jews were generally quite disliked, and so this man is different. He likes the Jews and is given money so that they can build a place to worship, so it's quite different. Et il y a encore quelque chose qui tranche chez lui, c'est son humilité envers ce qui n'est finalement qu'un espèce de rabbin itinérant. Il aurait toutes les raisons de se sentir supérieur, et il l'explique plus tard dans le passage, hein. Moi je suis dans une chaîne de commandement, et puis j'ai autorité, quoi. Je claque des doigts et les gens ils obéissent. Et on voit cette humilité envers Jésus. C'est extrêmement surprenant de la part de quelqu'un comme ça. C'est aussi des... the humility he has towards Jesus. He's an important man, he's a commander, he's got every reason to feel superior to Jesus, and in fact he doesn't. He's quite a humble man, which is remarkable. Alors maintenant, si on regarde un peu l'enchaînement des événements, on voit qu'il y avait d'abord, donc, ça commence par une situation banale, le serviteur est malade, et il fait intervenir des gens auprès de Jésus, et ce qui est remarquable, c'est qu'il ne cherche pas un genre de piston. Il explique dans le passage qu'il n'ose pas s'adresser à Jésus directement. Donc son approche est indirecte par humilité. So if now we study a little bit what happens in the passage, where the initial situation is that the servant is ill. And so this man approaches Jesus because he wants healing for his servant, but in a very roundabout way, indirectly, because in fact he considers himself unworthy of approaching Jesus directly. Et donc il exprime une confiance remarquable envers Jésus. Il dit que clairement, moi je sais que tu es capable de guérir instantanément et à distance, sans même imposer les mains. C'est vraiment remarquable. À cette époque-là, on pensait que les gens qui avaient des pouvoirs miraculeux, il fallait un genre de contact physique. And this man expresses a remarkable trust towards Jesus, and he expresses the fact that he knows, he believes that Jesus is able to heal from a distance without even laying his hands on the person. Et il explique pourquoi il a cette confiance. Et en fait, il fait un raisonnement par analogie. Il dit, voilà, moi j'obéis à des supérieurs et ça me donne une autorité sur mes subordonnés. Je suis dans une chaîne de commandement. Et vous savez que dans l'armée romaine, la discipline était une discipline de fer. La moindre désobéissance était punie, parfois très très gravement. Et donc, par analogie, il dit, moi je comprends le truc, c'est que finalement, tu es quelqu'un comme moi. Tu es complètement soumis à Dieu, et tu es situé très haut dans la hiérarchie spirituelle, et donc ça te donne une autorité sur les esprits, les mauvais esprits et les circonstances. Et donc tu as pleinement autorité pour faire des miracles. Oui, c'est basiquement un raisonnement par analogie. The man explains why he believes that Jesus is able to heal, and he makes a sort of comparison between himself and Jesus. And he says, look, I'm a man, you know, I belong to a chain of command. And so I myself got superiors and I obey my superiors, and this gives me authority to give orders to people under me. And you know, in the Roman army, the discipline was extremely harsh. You had to obey. And so he makes a sort of comparison and he says, look, I know that you are like me. You submit yourself totally to God, and you are situated very high in the chain of command, and so you have full authority over evil spirits or events, and so you have full authority to make miracles. It's a basic reasoning on a comparative basis. Donc il approche Jésus avec ce genre de comparaison et Jésus comprend le message et Jésus va accomplir le miracle qui est demandé et ça lui donne l'occasion de faire des compliments et de dire regardez voilà quelqu'un qui a tout compris sur qui je suis. Et c'est bizarre parce que c'est un étranger, hein, un goy comme on dit en hébreu, hein. Lui, contrairement à la plupart des gens bien religieux, il a compris que l'obéissance, c'est la clé de la puissance spirituelle. And so at the end of the story, the man gets what he wants, his servant will be healed, and this is an opportunity for Jesus to explain, to congratulate the man and say, look, this is a man who has really understood how it works, right? He has understood that obedience is the key to spiritual power. Alors maintenant, j'aimerais parler un peu de l'obéissance du disciple. Quelles sont les caractéristiques de notre obéissance à nous? D'abord, il y a la fausse obéissance. C'est l'obéissance en confiance, parce que cet homme à bord de Jésus, il a une pleine confiance. Et il nous est possible d'obéir, mais sans confiance. Obéir à des règles morales. Être dans les clous, comme on dit en français. Et ça, c'est l'attitude des pharisiens dans le Nouveau Testament. Ils obéissent, hein, pas de problème, à la lettre. Mais l'attitude sous-jacente, c'est pas la confiance en Dieu, c'est la crainte de la sanction. C'est-à-dire, si je désobéis, je vais me faire, je serai puni. Ou l'orgueil. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je respecte tous les commandements sans problème. So I'd like to say a word about our own obedience. What is the obedience of the disciple? And the first thing is that we may practice a sort of false obedience. That is, an obedience without trust. The man in the passage approaches Jesus with a sort of obedience which is full of trust. towards Jesus. And it's possible for us to obey, and sometimes to obey in a very fine way, but without trust. That is, we obey, we keep moral rules. You know, we live by the book, as you say in English. And this was the attitude of the Pharisees in the New Testament. And the sort of attitude that underlies that sort of obedience is either fear of getting punished, that is, I obey because if I don't, I'll get some sort of punishment, or it may be sort of self-justice, pride, you know, self-righteousness, you know, I'm somebody really okay. You know, I obey in a very strict manner everything in the law, and that this feeds pride. So all this is false obedience. Et maintenant, il y a la vraie obéissance, qui est l'obéissance à la personne de Christ. Et on n'est pas là à obéir à des règles, à un code. Hein? Excusez-moi, je ne vais pas paraître irrévérencieux, mais à un bouquin. Mais on obéit à la personne de Christ et on obéit à Christ dans le dialogue avec lui. Et c'est ce qui se passe dans ce passage. Cet homme est en dialogue avec Jésus. Même si c'est indirect, il parle avec Jésus. Il y a une interaction. Et vous savez, en hébreu biblique, d'ailleurs comme en grec biblique, obéir veut dire écouter la voix. Enfin, ça se dit écouter la voix de quelqu'un. Ce qui est d'ailleurs, quand vous dites en français obéir, ça vient du latin. Et pareil, il y a l'idée d'entendre. Et donc, l'attitude sous-jacente dans la vraie obéissance, c'est dans ce dialogue avec Jésus, l'amour et la crainte de Dieu, le respect. Je m'approche de quelqu'un de très important et je veux lui obéir parce que je suis en dialogue avec lui, parce que je l'aime, parce que je cherche à le comprendre, je cherche à saisir ce qu'il me veut. C'est ça la vraie obéissance. So, contrary to false obedience, there is true obedience, which is a sort of dialogue with the person of Christ. That is what the man does in the passage. He approaches Jesus, and there is some sort of interaction that builds up between him and Jesus. And so it relies on listening. In biblical Hebrew and biblical Greek, the verb to obey is in fact to listen to the voice of somebody. And so the attitude that underlies the real obedience is love and respect for the person of Christ. That is, you approach him and you speak to him, listen to him, and you build up an obedience that is based on trust and love. This is real obedience. Et il y a un truc que je dois rajouter qui n'est pas ici dans ce passage, mais je pense que pour nous chrétiens, en tant que disciples, c'est extrêmement important, c'est ce que j'appellerais l'obéissance au corps. L'obéissance à l'Église, au corps local. Nous sommes membres les uns des autres. Je ne fais pas ce que je veux comme je veux. Je suis dans une discipline collective qui est celle du corps. Et l'attitude sous-jacente, c'est qu'est-ce que je peux apporter au corps local? C'est l'esprit de service. Et non pas, qui est typique de notre société occidentale, qu'est-ce que je peux en retirer du groupe humain dans lequel, auquel j'appartiens? Ça, c'est la mentalité club. Et donc, même si ce n'est pas dans ce passage, je le rajoute parce que ça me paraît extrêmement important. But something that is not in the passage, which is obedience to the body, the local body of Christ, the local church, because we are the members, not just of a community, but we are members, one another's members. And so we have to obey each other. and we submit to that discipline of the local body, which is the local church. And so the underlying attitude is, what can I bring to the group? What can I offer? How can I contribute something which is spirit of service? And this goes right against prevalent mentality around us, which is the club mentality, which is what can I get from the group, you know, if I belong to some sort of group, a church, whatever you like, what sort of advantage can I get from them? So real obedience is the obedience to the local body. J'aimerais conclure avec deux exhortations. La première, c'est sortir de la désobéissance. Alors, vous allez dire, oula, mais moi, je ne suis pas concerné. Les gens du dehors, hein, eux, ils sont dans la désobéissance jusqu'au bout, mais moi, je suis chrétien, oui. Bon. Oui, bien sûr, ok, d'accord, je viens dans les grandes lignes, peut-être, mais est-ce que nous ne sommes pas, peut-être, quelque part, dans tel ou tel domaine de notre vie, dans une sorte de désobéissance, je dirais soft, une forme de révolte soft. Vous connaissez la parabole des deux fils? Le père appelle les deux fils, il dit à l'un, fait si, ah, je ne veux pas y aller. Bon, d'accord. Puis l'autre, oui, papa, pas de problème. Et puis, papa, pas de problème, et puis il n'obéit pas, en fait. Et c'est le premier qui obéit. Vous connaissez la parabole, hein? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'être dans ce type de désobéissance soft, un compromis? Procrastination, vous connaissez le mot, c'est un mot un peu savant, la procrastination, le fait de remettre au lendemain. Fait que, ouais, j'obéirai, Seigneur, tu vois, aujourd'hui j'ai trop de boulot, demain, voilà. Excuses, conditions, prétextes, je te suivrai, mais d'abord permets-moi de ceci, de cela, etc. Et on peut passer sa vie comme ça dans certains domaines de notre vie, à ne pas remettre les choses vraiment d'aplomb. Et donc, il faut savoir reconnaître que peut-être dans tel ou tel domaine, je suis dans la désobéissance. Peut-être pas dans la révolte, à brandir l'étendard noir de la révolte, mais dans une forme de désobéissance. Et ceci doit être mis à mort. To conclude, I'd like to give some food for thought, right? First thing is, I have to leave all sort of disobedience. I was saying that, of course, we're supposed to be Christians, and so I'm supposed to be obedient. The rebels that are outside, you know, and, you know, I'm clean, I'm okay. Now, this is theory, because in practice, I can find myself some aspect or area in my life within a sort of soft disobedience. And so, you know, I'm not saying no to God, frankly, but I can be in some sort of, you know, compromise or putting conditions in front of God so that I don't really obey, or sort of saying, you know, I will obey, but, you know, not today, not now, tomorrow, you know, got no time to obey now. And so we can be in some area of our life in a sort of practical disobedience. And this is not to be admitted. And so we have to consider our lives closely. And if I find myself in one particular domain, area of my life, in disobedience, I have to stop that. There's nothing else to say. I have to stop it. Alors, celui de l'exaltation, c'est sortir de la désobéissance, et l'autre, c'est croître en obéissance. Il y a le négatif et il y a le positif. D'accord ? Ok, d'accord, je suis chrétien, mais bon, il y a une marge de progression, hein, comme on dit. Et donc, je dois apprendre à grandir en obéissance. C'est pas forcément sympathique et facile. Déjà, obéir, c'est trancher. Si je veux croître en obéissance, je dois apprendre à trancher. C'est oui, oui, non, non. Le Seigneur nous donne des enseignements là-dessus. Que votre oui soit oui. Laissez tomber les points de vue humains qui me maintiennent dans le non-choix. Donc, obéir, déjà, c'est trancher. So, the negative thing which is I have to get out of my own disobedience if this is the case. And the positive aspect is I have to grow up to increase my obedience, which is a lifelong process, of course, right? And one thing is, if I want to increase my obedience, especially the quality of my obedience, I have to make choices. The Lord tells us somewhere that my yes has to be a real yes, my no has to be a real no. And very often we tend to stay somewhere in between, right? And so we keep in sort of non-choice position, which is not good. Obeying means choosing. Obéir, c'est aussi obéir vite. Il nous est dit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, que les anges obéissent au doigt et à l'œil. C'est Hébreux 1.7. Les anges obéissent au doigt et à l'œil, tout de suite. Et pourquoi pas nous ? Je pose la question. On a tellement de mal à obéir vite. Parfois, il nous faut des mois et des années pour rentrer dans l'obéissance, dans tel ou tel domaine, alors que ça aurait dû se faire comme ça. Alors, je ne suis pas là pour... Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, hein, mais comprendre que souvent, nous sommes tellement lents. Lents à comprendre, lents ce que vous voulez, mais alors lents à obéir. Obeying means obeying fast, immediately. The beginning of the letter to the Hebrews, you have a verse that tells you that the angels obey fast. They obey immediately. And we are very slow in obeying. You know, very often we are slow in understanding. That's one thing. But even when we understand, we tend to be very slow in practical obedience. And so if the angels obey immediately, give us some sort of example, why not us? Right. Et dans ma conclusion, c'est demander à Jésus l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance. Je pense que c'est vraiment une prière qu'on peut faire à Jésus 10 fois par jour. Seigneur, apprends-moi à mieux t'obéir. Et ça me ramène à ce que je vous disais au début. C'est complètement contraire à notre formatage social. On est vraiment dans un monde où tout est fait, tout nous est dit. Fais ce que tu veux, comme tu veux, n'obéis à personne, c'est toi le patron. Et c'est tellement dur pour nous de ressembler à ce centurion qui avait tout compris, qui avait compris que la clé du bonheur spirituel, c'est de rentrer dans l'obéissance. Donc demandons à Jésus un esprit d'obéissance. The conclusion is that it's a good thing for us to ask Jesus for a spirit of obedience, a mentality of obedience. something we can really sort of prayer that we can make 10 times a day. Oh Lord, will you increase my obedience? Because it's totally contrary to the message that we get from society around us. The message is, you know, do what you like, when you like. You are the boss of your own life, you know. And that commander had understood that the key for blessing is obedience. And so let us ask our Lord Jesus for a spirit of obedience. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qui nous permette de grandir en obéissance. Amen.